Martine Boudet, Bayette, une conférence le 17 et 5 de juillet qui à l'Université Occitane d'Estiu. Son thème abordait la question de la sphénose du féminin inter occitano et alfe libridge. Elle est nous autres ici. Martine Boudet, bonjour. Vous êtes chercheuse en anthropologie culturelle à l'Université Paris Diderot. Comment il s'est passé, l'invitation pour venir donner cette conférence à l'Università Occitana d'Estiu?
Oui, bonjour, merci de m'inviter, de me poser ces questions tout à fait intéressantes. Alors, Patrick Lapierre et moi avons fait connaissance à l'occasion de la création d'une liste de discussion qui s'appelle « Avenir Occitanisme ». Et qui a été créé sur Toulouse, mais qui veut quand même être assez large de diffusion.
Dans l'espace occitanophone.
Absolument, oui. Pan-occitan, occitanophone, de manière un petit peu à davantage mieux connaître les informations qui peuvent être issues de différents territoires. Parce qu'on constate quand même que malgré les moyens de communication dont le vôtre, et on vous en remercie, il y a encore des lacunes en matière informative.
Donc c'est le but. Par rapport aux cultures autochtones.
Tout à fait. On ne sait pas souvent qu'est-ce qui se passe à l'autre bout de l'espace pan-occitan. Voilà. Et donc c'est une liste parmi d'autres. Donc je me permets de donner l'information. Elle s'appelle Avenir Occitanisme. Et donc Patrick Lapierre y était inscrit en tant que responsable du MARPOC, IUO30. Voilà. Et donc il a vu nos travaux. Et féministe, sur la question du féminisme occitan, puisque sur Toulouse, le 8 mars dernier, avec Convergence Occitane, Radio Occitania, qui est votre consoeur, je crois.
Notre partenariat. Oui,
très bien,
oui.
Voilà, on s'en félicite. Et d'autres, et l'IEO 31, voilà, on a organisé une rencontre sur justement la création au féminin, la création littéraire. Donc il y a eu une dizaine d'autrices occitanes et même occitanophones souvent, qui ont été invités, dont moi-même, enfin qui est quand même coordonné la démarche. Et voilà. Et donc c'est à cette occasion que la question de féministe a été posée sur la liste. Et je pense que Patrick Lapierre a pu être intéressé par une intervention de ma part.
Et c'est ainsi qu'il est né le livre Les femmes et les féminins, Terre-Doc et Ophélie Bridge.
Alors, voilà, alors donc effectivement ce livre, l'idée est venue à la Sainte-Estelle de Bannière de Bigorre en 2017, donc c'est assez ancien, et le livre a été publié en 2023, parce que évidemment...
Pourquoi autant de temps, Martine?
Tout à fait, il fait quasiment 600 pages,
Ah oui.
Donc ça demandait quand même une élaboration collective importante, dans la mesure où le sujet des femmes et du féminin au Ophélie Bridge n'avait pas été traité. Et par exemple, là, pour vous dire, je viens d'entendre le conférencier qui a parlé de l'exposition Marcel Delpastre, qui a collaboré pendant des dizaines d'années au Ophélie Bridge, avec la revue Limousine, animée par Robert Joudou jusqu'à il y a quelques temps. Et à son époque, Marcel Delpastre n'a pas du tout été reconnu par le Ophélie Bridge.
Est-ce qu'on peut parler des mépris, Martine Boudet?
Alors non, je n'irai pas du tout jusque-là, mais effectivement d'un ordre patriarcal dans lequel s'inscrit quand même une certaine tradition félibrienne qui n'était pas misogyne, loin de là, et donc c'est rappelé dans le livre, Mistral, qui est dans le pilier, n'était pas misogyne, mais il avait quand même une conception traditionnelle des femmes. Et donc les femmes écrivains avaient quand même parfois des difficultés à être reconnues. Un autre exemple, c'est Philadelphe de Gerde, qui n'a pas été majorale. Elle était maîtresse d'œuvre, je crois, malgré quand même un écrit d'une production importante.
C'est pour ça que je considère intéressant le cas de Claire Deslunes.
Oui.
Puisqu'elle a réussi à outrepasser les barrières du patriarcat au début du XXe siècle en tant qu'autrice et journaliste occitane. C'est un cas, l'un des rares, il me semble, au sein du Ophélie Bridge. Justement, Martine Boudet, alors ce livre, Les femmes et les féminins, Terre-Doc, eux au Ophélie Bridge, donc c'est un ouvrage collectif. Une dizaine d'écrivaines autour de questions du féminisme. Mais y a-t-il une différence, Martine Boudet, entre le féminin et le féminisme?
Oui, Tout à fait. D'ailleurs, le Félibrige ne se revendique pas comme féministe. Hein. Je crois que ça a été clairement dit au travers de la discussion qu'on a eue hein, collectivement. De même qu'ils ne sont pas favorables à l'écriture inclusive. Il y a eu un point très nettement dit, écrit dans les statuts de l'association. Voilà. Mais pour autant, c'est vrai qu'il y a eu un effort très très louable de fait de la part de l'équipe actuelle, hein, animée à l'époque par Jacques Moutet, l'ancien capoulier. Et l'actuel capoulier, donc Paulin Reynard,
qui est un jeune homme.
Tout à fait. Donc cette équipe-là était parfaitement consciente qu'il y avait des déficits comme partout. Hein. Ce n'était pas du tout une critique que je voulais aller faire à l'égard du Félibrige. Je crois que l'ordre patriarcal, comme vous l'avez dit, il est universel. Hein. Et donc on a beaucoup de difficultés les uns et les autres à en sortir et à s'en émanciper mentalement. Voilà. Et donc il y a eu un très gros effort de fourni pour que ce livre puisse paraître, et donc il a mis du temps, bien sûr, à être d'abord rédigé, et après relu par un comité de relecture animé par Rémi Fuentes. Voilà. Donc, c'est clair. Alors, là, votre question, c'était effectivement entre féminin et féminisme. Alors, le féminin, le titre a été discuté. Alors, les femmes, on a bien compris que c'était par rapport au droit des femmes à pouvoir être reconnues en tant que telles, en tant qu'autrices, en tant que reines.
Égales
aux hommes, sur un plan statutaire et organisationnel. Et le féminin, c'est en rapport, effectivement, une pensée, un imaginaire que revendique le Félibrige. Hein, parce que le Félibrige n'est pas, au niveau du stéréotype, qu'une institution passéiste ou folkloriste. C'est aussi une institution qui, quand même, promeut l'imaginaire occitan. Et on ne peut pas dire que ce soit le cas de toutes les institutions occitanistes. Hein. L'IO, par exemple, a un travail linguistique remarquable, mais on ne peut pas dire qu'il est lié aux archétypes occitans, hein, de la même manière que le fait le Félibrige. Et je parlais avec Magali...
Parce que l'IO ne fait pas la promotion d'une sorte d'un folklore.
C'est ça.
L'IO est dans les études universitaire, c'est une autre draille, un autre chemin.
Absolument. Moi, je pense que ce sont des chemins complémentaires. Il ne faut pas du tout opposer nos institutions.
Néanmoins, Martine Boudet, je voulais venir sur le mot féminin, parce que à l'heure actuelle, quand nous entendons parler des groupes masculinistes sur les réseaux sociaux, le mot féminin, il y est maintes reprises utilisé, puisqu'ils ne veulent pas une femme féministe, ils veulent une femme féminine.
Oui.
Donc le féminin, final, il peut être utilisé comme un mot en opposition au féminisme. Une femme féminine, elle ne serait pas une femme dans une sorte de revendication.
Oui, absolument. Et de ce point de vue, donc, pour revenir à l'imaginaire félibrien, qui est lié donc au folklore populaire, comme vous l'avez dit, donc à une certaine forme d'archétype, hein. Oui, c'est une vision traditionnelle de la femme à travers le rainage, qui avait une valeur de représentation, hein, d'esthétique, de morale aussi, comportementale, que devaient véhiculer les femmes qui avaient été choisies. Voilà, et donc Frédéric Mistral, qui a impulsé cette institution-là du rainage, s'inscrit dans une vision traditionnelle du féminin, indéniablement. Voilà, et donc les jeux floraux participent aussi de cette vision-là des choses, avec donc une femme qui est liée à une symbolique florale, végétale, au monde de la musique, de la littérature et d'une poésie plutôt affective ou spiritualisée. Donc c'est quand même une vision quand même élevée du féminin, qui au niveau catholique, puisque quand même le Félibrige a une racine catholique, hein, est liée à la Vierge Marie. Hein, il y a vraiment cet archétype marial, virginal, qui est propre à la représentation du féminin dans le Félibrige. Et d'ailleurs le premier chapitre porte sur la sainteté au féminin, et il est signé par l'abbé Savalli, donc qui a été reconnu par le Félibrige comme pouvant, bien sûr, promouvoir cet aspect-là du féminin.
Et se dire qu'on ne veut pas être lié à l'image de la femme moderne, Martine Boudet.
Alors, je ne veux pas trahir les secrets associatifs du Félibrige, mais c'est clair qu'ils ont une vision traditionnelle. Mais pour autant, ils ont fait l'effort d'accepter mon projet. Moi qui suis effectivement occitaniste, je suis de Toulouse, donc ils savaient pertinemment que je n'étais pas une provençaliste, que la graphie mistralienne m'indiffère un peu, et que par ailleurs, je suis liée aux sciences sociales, à l'anthropologie culturelle. Donc il y a eu un effort de fait pour effectivement quand même faire un pont entre cette vision traditionnelle dont on vient de parler et effectivement la conception plus féministe qui est de dire quand même que les femmes ont été mises sous le boisseau et qu'il faut désormais un peu les en sortir. Et un exemple, c'est le chapitre que j'ai co-signé avec Roselyne Martineau, qui est donc une spécialiste félibrienne du dictionnaire de Frédéric Mistral, le trésor du Félibrige. Et donc c'est elle qui a recensé un grand nombre d'expressions très très misogynes qui est lié au peuple. On pourra parler de la tradition des troubadours à un autre moment, mais là, dans le fond populaire, il y avait une grande misogynie qui s'est traduisée en linguistique. Et donc, l'équipe a tout à fait trouvé normal de mettre en avant ce chapitre pour dire que c'est des choses qui ne peuvent plus se dire.
Avons besoin d'une justice historique, Martine Boudet. À votre avis, pourquoi il y a eu cette construction historique autour de la femme, d'après vos recherches dans le comportement de la civilisation au long de temps et...
Alors vous parlez au-delà du Félibrige, alors.
Complètement. Hein,
et vous parlez de la société occitane ou en général, d'une façon générale. Ah oui, moi personnellement, je pense que le patriarcat, c'est vraiment la structure anthropologique la plus durable, la plus pérenne, qui traverse quasiment toutes les civilisations, puisqu'il y a eu quelques exceptions matriarcales, on les connaît, elles ont périclité, par la force des choses, puisque c'est la force physique, et des éléments liés à la technologie, qui ont fait que l'univers masculin a pris le dessus. Donc pour moi, avant tout paramètre, tout autre paramètre de type socio-économique, voyez, religieux, linguistique, culturel, je crois que cette structure patriarcale, elle est vraiment prévalente. Et que tant qu'on ne se sera pas débarrassé de ça, et donc c'est ce qui met en avant, bien sûr, à mon avis, la question des femmes, on n'en sortira pas. Hein, parce que la domination dont parle très bien cette université d'été à Nîmes, le premier défendement, il est patriarcal. Et donc c'est là qu'on voit que la question des femmes, elle est centrale. Et je me permets de dire que pour moi, il y a une révolution silencieuse qui s'effectue à l'échelle mondiale, qui est la révolution féministe, où on l'appellera comme on voudra, mais enfin la promotion des femmes, du féminin, au sens progressiste du terme.
Néanmoins, Martine, le retour du bâton, il est très fort.
Voilà, c'est ça.
Vous en parliez. C'est une grande violence.
Ah, vous en parliez. Ah oui, oui. Parce que jusqu'à présent, ils ont accepté, toléré, mais là, on a senti effectivement qu'il y a un reflux idéologique très très fort. Vous avez parlé très justement du masculinisme virulent, et il s'exprime lié au suprématisme blanc. Enfin, il y a tout un paradigme. Parce que face aux dominations, comme pour reprendre le thème de l'université de Nîmes, c'est effectivement la question intersectionnelle. Et c'est vrai que l'émancipation des femmes est à corréler avec l'antiracisme, la libération par rapport à l'homosexualité, des choses de cet ordre. Toutes les minorités doivent pouvoir s'allier pour lutter contre d'abord le patriarcat et toute forme de domination illégitime. Et il y a cette réaction en chaîne dans l'autre sens, anti-intersectionnelle.
Martine Boudet, oui. Quand j'étais jeune journaliste, que je faisais mon master en sociologie politique, j'avais été confrontée aux études de Wright Mills, un États-Unien, qui nous parlait de cette théorie de l'homme blanc européen. Ou au moins de l'hémisphère nord, et qui est au centre, en réalité, de tous ces systèmes.
Ah, tout à fait.
Ça, vous le confirmez d'après vos études.
Ah oui, ça me parle, l'homme blanc. Oui, oui.
L'homme blanc.
Et alors donc, moi je suis dans le...
Et il y a même un âge, il y a une tranche d'âge.
Quelle est-elle?
Que c'est quand il dépasse ses 20, 25 ans, et jusqu'à ses 50, 55 ans, quand il est encore dans cette force en activité.
De l'âge.
Oui, parce qu'après il y a aussi la question du vieillissement.
Non, je crois profondément qu'il y a cet archétype-là de l'homme blanc. Et on le retrouve partout. Hein. Moi, je suis dans le mouvement social, hein, en dehors du mouvement occitaniste. Et je suis d'accord pour corréler les deux causes. Je ne sais plus qui le disait ce matin. Je crois que c'était Marie-Jeanne Verny, hein, qui rappelait l'importance de complémentariser le social et le culturel, l'occitaniste. Hein. Et oui, et moi, je le constate dans le mouvement social. L'homme blanc, on le retrouve partout. Ah oui, je peux vous le dire, dans plusieurs associations où je suis progressiste, donc hein, je ne citerai pas lesquelles, pour ne pas le faire d'ombre, et même occitaniste, hein, l'homme blanc, mais c'est vraiment un problème.
Il y a une
relationnel, ah oui,
d'un schéma.
Alors évidemment,
oui.
C'est moindre que ce qu'on peut voir à l'autre bout de l'échelle de l'homme blanc, hein, aux États-Unis ou ailleurs.
Complètement, parce que c'est très lié au capitalisme aussi, Martine.
Tout à fait. Oui. Voilà, tout ça, c'est corrélé. Alors c'est sûr que dans le monde progressiste, la domination est moindre, mais moi, il me semble qu'il y a une démocratisation en interne du mouvement social et même du mouvement occitaniste qui doit prendre en charge justement ce combat contre des stéréotypes beaucoup trop virulents et promouvoir donc les minorités, voilà, et donc en partie les femmes. Il faut les mettre en responsabilité.
Toutefois, Martine, oui. Boudet, nous, oui. Les femmes, nous sommes très formées.
Oui.
Nous sommes formées, nous oui. sommes à la pointe d'une pensée féministe. Alors, oui. Il est arrivé le temps que nous formons également les hommes afin de pouvoir transformer notre société.
Oui, moi, il me semble qu'il y a une valeur d'exemple du statut féminin. Sans vouloir, bien entendu, nier la part des hommes. Mais moi, on le constate même à l'intérieur des familles. Parce que ce schéma-là, qui n'est pas forcément de domination...
Elle est produite d'une façon inconsciente.
Ah oui, il y a une reproduction. Donc on n'a pas les mêmes tâches et les mêmes fonctions. Bon, moi, je vois dans mon propre couple, dans ma propre famille, le rôle de protection que je peux jouer. Bon, ça n'enlève pas le fait qu'évidemment le conjoint ou l'ex-conjoint a joué un rôle actif très important, bien entendu. Mais... c'est pas les mêmes rôles anthropologiques. Et donc, il me semble... Alors, c'est une notion que je mets en avant, c'est la culture de genre. Et en France, comme je le disais hier, il y a énormément de difficultés à faire accéder à la notion de culture au féminin et culture au masculin. Et pourtant, il y a le masculinisme qui s'exprime, dans le sens évidemment caricatural. Or, c'est très important pour voir effectivement qu'est-ce qui fait qu'au niveau de l'acquis, et même de l'inné, parce qu'on n'a pas le même corps, donc on ne peut pas réagir de la même manière. Mais au niveau de l'acquis éducationnel, culturel, nous avons des motivations parfois différenciées, des rôles différenciés, et il faut complémentariser ces rôles, bien sûr les inverser, voilà, on n'est pas dans des trucs figés. Voilà. Donc il me semble que la notion à mettre en avant, c'est la culture de genre et le dialogue des cultures de genre.
Et le complément. Comme Absolument. Vous l'avez cité, puisque nous sommes des êtres complémentaires et fait. Non pas des êtres en concurrence, Martine.
Ah, tout à fait. Et en sachant qu'on a le féminin et le masculin, les uns et les autres.
Complètement.
Alors, il faut bien oui. accepter cette réalité-là.
Et nous portons même oui. les hormones des uns et des autres. Donc, et avec le passé du temps, le oui. temps qui passe, oui. Les hormones changent également. Les hommes oui. perdent en testostérone d'accord. et montent oui. dans des hormones féminins. Oui, et pour les femmes également. Donc, oui. il faut l'admettre déjà d'une façon génétique, physique,
tout à fait.
Que nous oui. sommes cette dualité. Pour mieux les vivre.
Je retiendrai votre définition, parce que je ne suis pas du tout dans le monde de la biologie ou de la génétique, mais je reprendrai cet exemple. Parce qu'on a beaucoup de mal dans le mouvement social français de faire comprendre que l'inné, donc la nature,
oui.
joue un rôle dans la personnalité. Le mouvement social français est dans l'acquis. Voilà, l'éducation, voilà, etc. Mais il n'y a pas que l'éducation. Comme vous le dites très bien, il y a le gène, la génétique, le corps. Et donc, c'est ce qui est une composante de notre personnalité.
Non, mais
genré.
Je pense
genré.
Que le cartésianisme n'est pas tout le temps positif.
Non.
Parce que d'isoler, cette pensée isolée, carrée, oui. elle ne nous est pas bénéfique, Martine.
Non, non.
Et accepter les dualismes que chaque homme, chaque femme non, porte non. en soi... est une richesse. Nous, les femmes, nous pouvons avoir un côté masculin
Bien sûr.
Sans pour autant arrêter d'être une femme.
Bien sûr.
Et les hommes, ils peuvent porter un côté sensible, féminin. Absolument. Et C'est tout presque difficile d'accepter ça au sein de notre société. Martine Boudet, elle qui était en conférence à l'Università Tuscitana di Studi di Nîmes et qui nous parlait des femmes et du féminin Terre d'Oc. Alors, Martine, vous êtes donc chercheuse en anthropologie culturelle et vous vous intéressez beaucoup aux questions des peuples, des régionalismes, des langues, et vous avez récemment publié un livre chez IDECO qui s'appelle Les hymnes et le chant identitaire du Grand Sud. Alors, vous avez une période que vous avez bien marquée pour réaliser cette étude.
Vous parlez de la période historique des chants et des hymnes en question.
Oui.
Alors, ce sont des chants traditionnels tels que le secanto, le locoposanto, etc. Excusez-moi pour la prononciation. Voilà, donc j'ai voulu recenser ces chants à travers donc, les régions, différentes régions d'Occitanie et au-delà donc des régions annexes, enfin des régions voisines, hein, du style la Catalogne, la Corse, etc. Dans un même ensemble culturel, parce que tout ce qui est au sud de la Loire, à mon avis, constitue une composante culturelle avec des similitudes au niveau linguistique. Bien sûr, le latin est à la base, etc. Sauf dans le cas du basque, bien sûr. Voilà, et donc ça a été l'objet de la recherche. Et donc ce sont des chants traditionnels qui sont parfois très anciens, comme le secanto qui date du XIIe siècle, quoi, du Moyen-Âge.
Ah oui, il vient du Moyen-Âge, le secanto.
Oui.
Ah oui. Non,
à mon avis, oui, tout à fait, hein, il est très ancien.
Et les paroles que nous chantons actuellement, elles sont fidèles au texte original?
Alors, il y a eu plusieurs variantes, puisque donc le secanto, il s'est quand même disséminé dans différentes régions occitanophones, et donc il y a eu des variantes lexicales en particulier. Et oui, c'est un chant qui est ancien. À la différence de Locoposanto, par exemple, bien sûr, l'œuvre de Frédéric Mistral, hein, qui est l'hymne officieux de la Provence. Alors là, il date du XIXe siècle. Hein, et le Félibrige en a fait, lui aussi, son hymne officiel dans ce cas.
Notre temps, il c'est sage, Martine Boudet, mais avant de clôturer notre intéressante charadis, je voulais savoir quelle est la fonction sociale d'un hymne comme la Locoposanto ou le Secanto. Ça représente quelque chose à l'heure actuelle encore pour un peuple, pour la création d'une identité ou pour revendiquer une identité?
Tout à fait. Alors, disons qu'à à l'époque de la décentralisation régionale, hein, de l'œuvre La Loi de Gaston de Fer, seul le drapeau a été considéré comme un emblème officiel des régions. Hein, on connaît la croix occitane pour chez nous, etc., pour la région Occitanie. Voilà, et donc les chants n'ont pas été intégrés, à la différence par exemple des communautés autonomes espagnoles qui ont plus de prérogatives symboliques et puis aussi bien sûr politiques, hein, et économiques. Voilà, et donc pour autant, les peuples ont besoin de se relier, de se réenraciner dans des emblèmes qui leur permettent de retrouver l'unité linguistique en particulier, parce que le drapeau c'est visuel, hein, bien sûr la beauté des coloris et des symboles, hein, mais le chant fait revivre la langue. Donc dans un pays, l'Occitanie, faut le dire, autarcique, hein, comme l'est l'Occitanie, la langue effectivement a besoin d'être défendue. Et effectivement les hymnes jouent ce rôle de ritualiser, hein, le retour à la langue.
Martine Boudet, pour passer commande de ce livre, l'emblématique des régions de France, on doit contacter directement l'éditeur?
On peut passer par une librairie et bien sûr passer une commande, sans problème.
Okay.
Sans problème.
Magnifique. Martine Boudet, merci beaucoup pour nous avoir consacré ce temps à Radio Languedoc. Et pour nos auditeurs et auditrices qui souhaitent participer de votre liste commune d'informations, Martine, comment peuvent-ils faire?
Voilà. Alors, mon adresse mail, c'est boudetm31@gmail.com. Alors vous m'envoyez un mail et on vous inscrit sans problème sur cette liste qui doit déjà comporter 200 colistiers. Voilà, et on sera très heureux de vous voilà, de vous accueillir et puis d'écouter vos, enfin, de lire vos informations.
Merci pour cette initiative, Martine. Moi-même, je participe de cette liste de diffusion. Elle m'est vraiment très utile.
Merci.
Merci.
Merci à vous. Et je retiens ce que vous m'avez dit sur la question génétique.
De notre dualisme.
Ah oui, tout à fait.
Ah, oui, oui.
Je crois que cette relation à l'inné, à la nature, au corps, donc, doit être davantage valorisée. Je retiens votre argument.
Merci. Martine Boudet, si je vous ai appris quelque chose aujourd'hui,
absolument.
Écoutez, tout plaisir, tout honneur pour moi. Merci pour votre participation. Une bonne journée à toutes et